Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour.
La faculté de Tolbiac a été évacuée par les forces de l'ordre ce matin au cours d'une opération express entre 5h et 6h du matin. Cela s'inscrit dans la volonté exprimée par le Premier ministre de rétablir partout l'état de droit. Mais est-ce que ça ne risque pas de renforcer la détermination du mouvement étudiant? Parce qu'on sait que c'est souvent comme ça que ça marche aussi.
Je ne crois pas. C'est pas simplement pour rétablir l'état de droit, même si ça suffirait à justifier l'opération. C'est aussi pour donner droit à ceux qui veulent travailler. Ces mouvements dans l'université ont deux caractéristiques. Ils sont ultra minoritaires, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'établissements concernés, une dizaine d'établissements sur 73 facultés. Et à l'intérieur des établissements qui connaissent des difficultés, et à l'intérieur des universités concernées, un tout petit groupe de personnes qui essayent de tout bloquer, alors même que parfois ils n'appartiennent même pas aux universités concernées et qui sont là essentiellement pour essayer d'empêcher les autres de travailler. Ça n'est pas ça le fonctionnement démocratique. Je prends un exemple, un contre-exemple. En face, vous avez la SNCF. Certes, les cheminots bloquent le pays, empoisonnent le pays avec ce mouvement, mais ils sont légitimes. Ils n'essayent pas d'empêcher les autres de travailler. Les autres personnes de la SNCF travaillent. Donc, nous ne sommes pas contre les droits de manifestation, nous ne sommes pas contre le droit de grève, nous sommes juste pour que le droit de ceux qui veulent travailler, quel qu'il soit, puisse le faire.
La méthode que vous contestez, mais comment se fait-il, puisque le gouvernement, la ministre de l'Enseignement supérieur, répète sans cesse qu'il n'y a pas de sélection, que le nouveau processus qui s'appelle Parcoursup permettra à tout le monde d'obtenir une proposition de cursus universitaire. Comment se fait-il que cette idée-là n'arrive pas finalement à être reçue et que un certain nombre d'étudiants sont convaincus qu'aujourd'hui le gouvernement introduit la sélection à l'université?
Alors, un tout petit nombre d'étudiants, parce que l'essentiel des étudiants soutiennent cette réforme pour une raison très simple, c'est que la sélection, elle existait avant et d'une manière brutale par le fait que 60% des jeunes échouaient et sortaient du système à la fin de la première année du premier cycle sans aucun diplôme, sans aucune qualification et allaient remplir les bataillons du chômeur ou des gens sans qualification. C'est ça à quoi nous voulons mettre fin. Et donc, nous le faisons avec un système qui permet d'orienter le choix des lycéens puis des étudiants de manière à ce qu'ils suivent des parcours en phase avec leurs compétences, leurs aptitudes et leurs goûts. Et donc, nous mettons au point un système avec Parcoursup qui met fin à un système que tout le monde décriait, qui se terminait par ce fameux tirage au sort qui était un scandale absolu. Nous faisons en sorte que les personnes puissent combiner leurs aptitudes et leurs vœux. Et que si leurs vœux ne correspond pas exactement à leurs aptitudes, nous les accompagnons dans un processus qui permet de les mettre à niveau pour qu'ils rentrent ensuite dans la filière de leur choix, mais avec la chance d'y réussir. Et alors, à la fin, la possibilité d'y obtenir un diplôme.
La journée de mobilisation interprofessionnelle d'hier à l'appel de la CGT et de Solidaires n'a pas été le succès sans doute escompté par ses organisateurs. Est-ce qu'un échec des organisations syndicales qui se mobilisent en particulier autour de la SNCF, est-ce qu'un échec de la CGT est un succès pour la majorité?
Non, c'est pas comme ça que ça se présente. Les syndicats
sans
sont
doute un peu quand même, non?
Non, mais attendez, je vais pas vous dire que nous souhaitions un succès ou que nous souhaitions un embrasement dans ce pays. Vous savez, on parle de choses trop sérieuses. Nous sommes en train de transformer ce pays en profondeur, avec une ambition comme jamais aucun gouvernement n'en avait porté depuis 1958. Cette réforme, ces chantiers, ces réformes, ces transformations portent évidemment une forme de bouleversement qui déplace les habitudes, qui change les mentalités et qui évidemment provoque des interrogations. C'est normal, nous l'avions prévu et nous l'assumons. Ça, c'est indispensable. Mais ce que nous constatons, c'est que finalement, chaque réforme peut provoquer un peu d'hésitation, un peu d'interrogation, voire du mécontentement, voire de la colère. Mais que globalement, le pays nous soutient dans notre volonté de changer et de transformer les choses. C'est ça le point essentiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette fameuse convergence des luttes qui fleure bon quand même les années 60 ou 70, elle a peu de chances de se mettre en place. Parce que
ça n'est pas un scénario auquel le gouvernement se prépare.
Mais il n'y a aucun lien entre ça. Si vous essayez de trouver un lien entre la
SNCF... Martinez dit que le lien, c'est le pouvoir d'achat.
Mais c'est inexact. Expliquez-moi en quoi la réforme de la SNCF pèse de quelque manière que ce soit sur le pouvoir d'achat des cheminots. Rien.
C'est à Philippe Martinez qu'il faudra demander.
Ben, je lui pose la question et ça fait quelques jours qu'il brandit l'argument sans en apporter jamais la démonstration.
Alors, le climat social se détériore tout de même. Philippe Martinez, qui était d'ailleurs hier matin à votre place ici même, disait que le gouvernement faisait semblant de négocier, qu'il veut des syndicats qui disent oui à tout. L'intersyndicale refuse désormais de discuter avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Elle veut traiter directement avec le Premier ministre, qui a opposé à cette demande une fin de non-recevoir. Ça n'est tout de même pas la marque d'un dialogue social qui fonctionne bien.
Le Premier ministre et la ministre des Transports, c'est la même chose.
Apparemment, aux yeux des syndicats, apparemment.
Mais ça fait partie des figures théâtrales de la négociation. Il y a une seule entité qui négocie avec les cheminots, c'est le gouvernement. Et il est normal que le gouvernement soit représenté par la ministre des Transports, qui fait un excellent travail. Nous sommes à 10 jours de la fin des concertations. Ces concertations ont apporté des progrès considérables, de l'aveu même de certains syndicats, sur le calendrier de l'ouverture de la concurrence, sur le transfert des droits au cas où un salarié quitterait la SNCF pour rejoindre un autre opérateur du domaine ferroviaire, sur un certain nombre de droits attachés au métier spécifique que représentent les cheminots. Donc on ne peut pas dire que la concertation n'a abouti à rien. Maintenant, la loi a été votée en première lecture. Donc elle va maintenant s'imposer. Il faut l'admettre. Il faut que les cheminots deviennent raisonnables.
Mais comment on fait pour négocier alors que la loi est votée ?
On a intégré dans la loi un tas de résultats de la négociation que je viens de vous indiquer. Ils sont maintenant dans la loi. En plus, il y aura une deuxième lecture qui permettra peut-être encore d'ajuster les choses. Mais vous savez, la démocratie sociale est essentielle. Le droit de grève, il est irréductible. Vous n'avez jamais entendu un membre du gouvernement et de la majorité de critiquer la légitimité du mouvement des cheminots. Et moi-même, je ne le fais pas. Simplement, nous sommes investis d'un mandat politique par l'ensemble des Français, pas simplement par la CGT de la SNCF, pour transformer les choses. La SNCF est dans une situation où sa pérennité est en danger. Est-ce qu'on veut rester comme ça, y compris du point de vue de l'intérêt des cheminots et des salariés que les syndicats sont censés défendre? Ça n'est pas durable. Donc, cette loi, nous avons pris les responsabilités et nous allons aller jusqu'au bout.
Alors, il nous reste peu de temps et je voudrais qu'on parle un peu de la loi asile-immigration qui est en débat en ce moment à l'Assemblée nationale. Les débats, d'ailleurs, pourraient se prolonger jusqu'à samedi, voire dimanche. Les dispositions ont été prises pour que cela soit possible afin d'achever l'examen des très nombreux articles et des centaines d'amendements restants. C'est un texte qui divise assez profondément, y compris au sein de la majorité, puisque 200 des 1000 propositions d'amendements débattues cette semaine émanent des rangs de La République En Marche. Certains parlent d'un début de fronde, alors je sais que le mot, ça vous amuse, mais enfin, il y a quand même un malaise chez certains élus de la majorité.
Vous avez, sur ce question de l'immigration, l'exemple même d'un sujet qui n'est pas à analyser en fonction de critères politiques. Il y a un certain nombre, très peu nombreux,
une dizaine,
de nos collègues qui sont mal à l'aise avec ce texte.
Et vous respectez leur malaise ?
Ah ben évidemment. Non seulement on le respecte, mais on a mis en place au sein du groupe un dispositif depuis 2 mois de débat et de discussion comme nous ne l'avions jamais fait pour aucun texte auparavant. Et d'ailleurs, les mêmes députés qui sont mal à l'aise avec ce texte reconnaissent que nous avons fait un travail formidable, un travail démocratique formidable en notre sein. Donc, de ce point de vue-là, pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de nos collègues ont des engagements associatifs antérieurs, sont habités de convictions parfaitement respectables, qui fait que sur ce texte, ou plus exactement sur certains aspects de ce texte, ils ne sont pas à l'aise.
Question très simple avec une réponse très courte, faut-il sanctionner ceux qui ne voteraient pas le texte ?
Écoutez, nous ne sommes pas un régiment, nous ne sommes pas des contremaîtres. Ouais. Nous avons dit, par la voix de notre président, que la discipline de groupe excluait le fait de voter contre la loi. Si certains n'arrivent pas à se convaincre de cet esprit de responsabilité, c'est dommage. Mais enfin, on ne va pas dresser l'échafaud.
Merci Gilles Lejeune. Bonne journée.